dernier volet de notre série consacrée à l'alimentation. Après avoir évoqué lundi les politiques globales de lutte contre la faim, mardi l'insécurité alimentaire des pays pauvres et hier les circuits courts et le manger local, tournons-nous aujourd'hui vers l'avenir. Alors que des préoccupations environnementales et sanitaires poussent une partie de la population à modifier son régime alimentaire, une autre part continue de voir ses traditions culinaires disparaître au profit de la nourriture industrielle. Le menu du futur, un régime à deux vitesses? C'est la question qu'on va se poser ce matin.
Ce jeudi, Burger King commercialise une version végétarienne du Whopper à travers tous les États-Unis.
Je vais dire que celui-là, c'est le vrai Whopper et que le premier que j'ai eu était l'impossible Whopper. J'avais raison. J'aime beaucoup le nom. Je trouve qu'il résume bien l'idée. Ça s'appelle Soylent, ça fait le boulot, c'est pas cher, c'est efficace. Prenez-en pour subvenir à vos besoins et mangez bien le week-end. Je me projette déjà dans le futur. Peut-être que dans 20 ans, ce sera comme de l'eau.
Dans ce laboratoire, nous avons aussi stocké les hamburgers. Ils sont dans ces pipettes. Chacune contient 1,5 million de cellules. Mais ça n'est que du muscle, donc ce sont de minuscules morceaux de viande. Et si vous les mélangez et que vous les assemblez pour les mettre en forme, eh bien vous obtenez un hamburger.
La viande de laboratoire, le burger végétarien, les boissons toutes prêtes qui remplacent les repas de New York à Paris en passant par Buenos Aires ou Pékin, les incitations à manger différemment pour éviter le cholestérol mais aussi pour limiter son empreinte carbone sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus prégnantes et commencent à influencer sur nos comportements alimentaires. La viande en particulier est au cœur des questionnements. Faut-il arrêter d'en manger, en réduire sa consommation, la modifier ? Alors prompte à se réapproprier les éléments de sa critique, l'industrie agroalimentaire n'a pas attendu que les experts tranchent pour se préparer à l'avenir. Entre steak de soja et steak in vitro, une immense activité de recherche et développement qui n'empêche pas les multinationales de poursuivre leur expansion via leurs produits classiques sur l'ensemble du globe, notamment dans les pays en développement. Que mangera-t-on demain? À quoi ressemblerait le régime alimentaire permettant à la fois de limiter l'impact sur l'environnement tout en assurant les besoins nutritionnels de tous? Et est-ce seulement possible? Comment évolueront les inégalités en matière d'alimentation? Va-t-on vers un régime à deux vitesses, celui pour ceux qui ont les moyens et celui pour les autres? Bonjour Gilles Fumet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, professeur de géographie et membre de l'université mixte de recherche du CNRS Sorbonne, identité, relations internationales et civilisation de l'Europe, c'est l'intitulé exact. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages et sous les yeux par exemple l'alimentation, demain, culture et médiation que vous avez dirigé, qui est un ouvrage collectif. À nos côtés également Christian Fournier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. Vous, pas encore de livre, en revanche, vous préparez une journée sur les questions qui vont être les nôtres ce matin, futur Food à l'EHESS, une journée d'études ouverte au public?
Demain, ouverte au public.
C'est où?
Au 54 boulevard Raspail.
On mettra un lien sur la page de Culture Monde. Gilles Fumet, cette semaine, il y a donc cette célèbre enseigne de fast-food, Burger King, pour ne pas la nommer, qui a lancé sa version végétarienne de son burger, avec donc un steak composé de protéines de soja et de pommes de terre, d'huile de coco et de tournesol, et de M, la M étant une molécule riche en fer qui donne cette couleur rouge qui rappelle peut-être la viande. Le lancement va se faire progressivement, mais d'ici quelques semaines, on va pouvoir manger dans l'un des 2500 restaurants répartis dans 25 pays, ce formidable nouveau burger. C'est un produit qu'on lance au nom de l'urgence écologique. On sait, on va en parler, la viande a une empreinte carbone très forte et il faut peut-être repenser tout ça. Mais c'est aussi, évidemment, Gilles Fumet, un enjeu économique très important parce que il s'agit aussi de trouver des nouveaux relais de croissance et que les végétariens sont des cibles absolument crucial, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, donc il faut aller chercher aussi ces clients-là. Alors c'est une actualité, Gilles Fumet, qui peut paraître un peu secondaire, un peu mineure, mais en réalité, elle dit beaucoup sur l'importance pour les industriels de livrer cette bataille sur le nouveau marché des alternatives. C'est ça qui est en jeu derrière ça.
Oui, parce que ce qui est frappant dans cette affaire, c'est qu'ils présentent ça comme une adaptation et au marché, alors que c'est le marché qui réclame la viande. Donc déjà, ils n'ont plus la main sur la proposition, puisque ce sont les végétariens qui commencent à menacer un peu leur production. Mais surtout, l'autre aspect, c'est que ils ne savent pas qu'ils introduisent un brouillage dans le message, parce que on continue à appeler viande ou steak des choses qui n'en sont plus. D'ailleurs, les industriels de la viande ont réclamé que on ne puisse pas nommer de viande des choses qui sont faites avec des végétaux. Donc, sur le plan lexicographique, tant qu'on n'a pas inventé encore des mots qui consistent à désigner de la viande sans viande, du lait sans lait, des œufs sans œufs, sans poule, eh bien, on est dans quelque chose qui est complètement illisible. Mmh.
Et ça, c'est une bataille qui est déjà en train de se jouer, cette bataille lexicographique. Mmh.
Oui, alors
parce qu'on la voit pas, on n'en parle jamais.
On n'en parle jamais pour l'instant, mais parce que je crois qu'ils ont il y a un délai pour effectivement tenir un nouveau vocabulaire. Et puis surtout, on n'a pas trouvé la solution. Mmh. C'est-à-dire que en fait, on est encore dans un ancien monde qui réclame du steak. Voilà, et le steak étant une invention anglaise du 19e siècle, donc avant le steak, il y a eu d'autres choses. Donc, il va falloir trouver les moyens de nommer ce qui est le centre du repas pour les végétariens, qui reste encore quelque chose comme le centre du repas pour les végétariens et pour les industriels qui le présentent, sans qu'on sache ce que c'est aujourd'hui.
Et d'ailleurs, vous écrirez demain un article dans Libération sur ce sujet. Tristan Fournier, je voudrais vous entendre là-dessus. Alors, je disais, enjeu économique très important, JP Morgan évaluait le marché récemment de cette viande végétarienne à 100 milliards de dollars d'ici 15 ans. Donc on voit évidemment que c'est colossal, mais la question est de savoir si effectivement on va pouvoir, avec cette stratégie, attirer les végétariens. Parce que les végétariens, s'ils ne vont pas vers la viande, c'est qu'ils ont une raison, c'est qu'ils cherchent autre chose. Est-ce que cette autre chose proposée, par exemple là, par Burger King, pourrait convenir à ce type de consommateur? C'est une question, Tristan Fournier.
Mmh. Je pense que c'est relativement emblématique de ces grandes promesses alimentaires où, justement, leur force, c'est de, quand elles sont basées sur ces innovations technologiques, hein, vous parliez de viande in vitro, mais aussi pour ces burgers végétariens, c'est de s'appuyer justement sur et d'assembler différents registres, hein, qu'on retrouve pas généralement ensemble. C'est-à-dire que là, on a un registre qui est nutritionnel, vous en avez parlé, hein, on sait toutes les recommandations qu'on a de santé publique à manger moins de viande, par exemple. Donc là, il n'y a pas de viande dans ce burger-là, donc ça pourrait marcher. Mais aussi est agrégé ce registre environnemental. Et donc, je crois que cet assemblage assez original, nutrition d'un côté, d'autre part empreinte écologique, fait que ces produits-là ont une certaine force, ont une certaine popularité, permettent de capter des publics assez larges et en même temps de se protéger de certaines formes de critiques. Hein, puisque si vous dites que vous vous intéressez à ce burger-là, on peut vous dire que on regarde trop votre aspect nutritionnel, etc. Mais on peut aussi rétorquer qu'on s'intéresse à l'empreinte écologique et inversement. Mmh. Donc je crois que ces assemblages-là sont assez intéressants à observer.
On reviendra sur la question de la viande et comment est-ce qu'il faut repenser justement notre alimentation compte tenu de l'empreinte carbone qu'il y a derrière. Mais si on reste avec vous, Tristan Fournier, un instant peut-être, on voit évidemment ces dernières années énormément d'initiatives avec des aliments, appelons-les high-tech, aussi étonnants qu'inquiétants. On a des steaks sans viande, mais qui ont la couleur, peut-être même la texture, en tout cas le début. On travaille sur des cellules de foie gras qui ne sont pas issues d'animaux vivants. On fait du fromage à base de lait d'amande. On a une vraie révolution food 2.0 qui est aujourd'hui en marche, avec au cœur évidemment le moteur, la Silicon Valley. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette révolution? Puis ensuite on posera la question à Gilles Fumet. Comment est-ce qu'elle modifie notre rapport à l'alimentation, à la nourriture? Et quelles perspectives réelles est-ce qu'elles offrent?
Bah déjà, c'est une des grandes promesses alimentaires, en fait. Parce que souvent, quand on a ce qui incarne le mieux, je dirais, l'alimentation du futur, c'est justement ce dont vous parliez, la food tech, hein, donc des promesses alimentaires qui sont basées sur des grandes innovations technoscientifiques ou biomédicales. Donc, la viande in vitro incarne parfaitement cette promesse-là. Donc, j'ai travaillé sur cette question avec un collègue, hein, Olivier Lepilaire, donc sur la viande in vitro. C'est une partie des promesses. Par ailleurs, je crois que ça serait erroné de penser que justement ce futur de l'alimentation se joue que dans des sphères avant-gardistes, ultra-technologiques. On a, je crois que c'est hier l'émission qui parlait justement de circuits courts par exemple. Donc on a évidemment d'autres manières d'imaginer ces futurs. On a aussi des promesses qui réémergent. Je travaille en ce moment sur la pratique du jeûne. Et les stages de cueillette de plantes sauvages comestibles, hein, avec mon collègue Sébastien Dalgalarando. Et on observe aussi que à côté, en parallèle de ces promesses qui sont ultra technologisées, comme la viande in vitro l'incarne bien, on a aussi d'autres pratiques qui réémergent depuis plusieurs siècles, plusieurs années, etc. et qui nous invitent à voir dans le futur, à s'appuyer sur plutôt des registres passéistes pour se projeter dans le futur.
Gilles Fumet, qu'est-ce qu'on est en train d'inventer là en Californie, cette food 2.0? Est-ce qu'on est en train d'inventer le régime alimentaire de demain ou est-ce que finalement il ne ressentira rien ou pas grand-chose?
Mais je pense qu'en fait, la Silicon Valley essaie d'inventer sur le plan alimentaire ce qu'elle a réussi sur le plan de la téléphonie, de l'édition, de la distribution avec Uber, hein, avec tout ce qui est la révolution des entreprises de 2.0. Hein. Et ce qu'on voit, ce qui est très nouveau quand même, c'est que des firmes comme Google qui s'intéressent à la viande in vitro, en fait, ça signifie tout simplement que on est en train d'imaginer un écosystème dans lequel on aura l'innovation qui sera produite par des firmes multinationales américaines, qui seront distribuées par Uber. Bon, apparemment, c'est quand même une entreprise. Uber et surtout Amazon, des grandes entreprises de distribution qui peuvent laminer les distributeurs locaux. Voilà. Et on voit bien, par exemple, les hypermarchés sont quand même très très largement délaissés de la part des jeunes générations qui ne vont plus dans les grandes surfaces à l'extérieur des villes, hein, au profit des livraisons à domicile. Voilà. Et on va avoir un ensemble dans lequel on aura à la fois l'innovation, la production et la distribution qui sera faite, enfin imaginée, pilotée depuis la Californie, voilà, et qui peut effectivement fabriquer un régime alimentaire dont nos modes de vie ont besoin.
Mais attendez, vous dites que là il y a un environnement qui permettrait effectivement ce glissement-là, cette évolution qui par ailleurs est pas forcément très souhaitable, mais peu, à la limite peu importe. Gilles Fumet, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va concerner tout le monde? Quand on voit non. par exemple encore les coûts justement qui sont derrière ces steaks in vitro par exemple, pour ne prendre que pour ces foie gras que l'on fait comme ça pousser en laboratoire, on va tous manger ça demain?
Non, on va pas tous manger ça. Non, non, rassurez-vous, les Français vont rester attachés au vin, au fromage, à la viande locale, bien sûr. Mais il y aura quand même en pointe dans les métropoles ce mode de vie-là. Exactement, si vous voulez, comme vous avez pour les déplacements des gens qui ont des trottinettes dans les métropoles et qui sont encore à vélo dans les villages. Donc, je pense que il faut imaginer que on aura des différents types d'alimentation, différents types de, mais comme on l'a aujourd'hui d'ailleurs. Mais quand même, je pense que
ça sera pas le seul, mais il fera partie du paysage de demain.
Oui, et puis il peut un jour remplacer un certain nombre de choses comme pour la voiture autonome, hein. Bon, pour l'instant on n'est pas au point, mais on n'est pas sûr que elle ne puisse pas marcher un jour, voilà. Et si elle marche un jour dans certaines configurations urbaines, elle peut effectivement chambouler pas mal de choses.
Alors Tristan Fournier, le steak in vitro, on n'y est pas encore, en tout cas pas tous. En revanche, on voit des nouvelles solutions alimentaires, appelons-le comme ça, qui apparaissent et qui rencontrent un certain succès. On va prendre un exemple en particulier auquel vous vous intéressez. Il y a une société, en l'occurrence française, qui s'appelle Feed, voilà, qui propose des boissons toutes prêtes ou des bars protéinés. Il se trouve que qui sont censés remplacer donc des repas complets, vegan, enfin qui ont toutes les qualités du monde. Et il se trouve que c'est une société qui fonctionne bien. Ça fonctionne tellement bien qu'on commence même à exporter à l'extérieur de nos frontières. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Qu'est-ce que ça nous dit de l'évolution justement de notre rapport à l'alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tout à l'heure, Gilles Fumet nous disait, en France, on est quand même attaché à notre viande et à nos fromages, ce qui est évidemment vrai, mais sauf qu'on voit que, y compris en France, les choses sont en train de bouger. Comment vous interprétez tout ça, Tristan Fournier?
Voilà, Feed, c'est un objet assez génial, je trouve, à étudier, donc je commence à travailler là-dessus, justement. Et on en parlait dans l'introduction, on a entendu parler de Soylent, hein, qui est en fait l'élément qui a inspiré le fondateur de Feed. Donc c'était une marque californienne, hein, comme très souvent. Alors, c'est très intéressant comme objet parce que justement ça permet justement de regarder tous les registres dont je parlais tout à l'heure qui sont vraiment assemblés dans cette promesse. Soylent, donc ce qui a inspiré Feed aux États-Unis, c'est une communication essentiellement basée sur la nutrition et le gain de temps. Hein, donc c'est-à-dire que l'idée de manger ces substituts de repas, c'est d'économiser du temps pour faire autre chose.
Soit et de l'argent, du temps et de l'argent.
Exactement, c'est parce que c'est souvent commercialisé très peu cher. C'est prévu pour économiser du temps, souvent pour travailler plus, mais aussi pour avoir des loisirs, etc.
Pour avoir de la liberté.
De la liberté.
Non, je vous dis ça parce que on a réécouté ce matin, du coup, le clip promotionnel.
Hein, donc, de Soylent ou de... Ouais,
ouais, non, de Feed, pour justement savoir quel était le message. Ouais. Donc, on vous vend bon aliment, on vous vend de la liberté, on vous vend des économies, c'est ça qu'on vous vend.
Exactement. Bon, quand même, le fer de lance de la rhétorique, c'est quand même l'optimisation, la performance, on va dire, à travers la nutrition, à travers le gain de temps. En France, Feed, c'était, d'ailleurs, c'est indiqué sur leur site internet, hein, c'était un vrai challenge de lancer un substitut de repas au pays de la gastronomie. Et comment ils se sont débrouillés? Ils ont, bien sûr, pas abandonné cet argument de performance, donc le gain de temps et la nutrition, puisque il s'adresse à un public qui veut gagner du temps et qui veut être attentif à son alimentation. Mais par ailleurs, on sait par expérience que ce genre de produit marche pas tellement bien en France, puisque c'est un marché compliqué, hein, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait évoquer, un attachement à des règles de convivialité, de commensalité, de gastronomie, etc. Bref, et ce qui est très intéressant dans cette promesse, c'est qu'on a agrégé différents registres. Donc on a toujours gardé l'optimisation, la performance, le gain de temps, la nutrition, d'une part, et on l'a assumé en le complétant, ce dispositif, par quelques éléments très intéressants. Par exemple, la figure récurrente de Thierry Marx, hein, le chef, un des grands chefs de la gastronomie française aujourd'hui, qui est l'ambassadeur officiel de la marque et qui vient réassurer, qui vient, comment dire, inscrire, installer un peu les consommateurs dans un grand récit patrimonial. Hein, on les rassure, on rajoute un petit peu de collectif. Et puis, ce que vous n'avez pas mentionné, c'est que ces produits-là sont vendus comme étant vegan, ouais. Ce sont des protéines végétales. Et donc, même si cette pratique va, a priori, individualiser notre rapport à l'alimentation, on inscrit quand même les consommateurs dans un enjeu collectif de défense de l'environnement, etc.
Sur cette question de l'individualisation, l'individuation, finalement, de ce rapport à l'alimentation, Gilles Fumet, c'est vrai qu'en France, on est particulièrement attaché à la commensalité. Finalement, la gastronomie française évoquée par Tristan Fournier, c'est pas seulement des plats. C'est aussi l'art de la table, c'est aussi l'art de la conversation, c'est l'échange, c'est le partage. Et on voit que cette commensalité, elle est terriblement mise à mal par ce genre de phénomène qui prend, y compris en France, le pays de la gastronomie. Qu'est-ce que ça vous inspire,
Jean-Jumet ? Alors, ça m'inspire que, elle est mise à mal, mais en même temps, il faut rappeler les sources de la gastronomie française qui sont des sources monarchiques, royales. Le grand repas à Versailles de Louis XIV, c'était pas un repas de tous les jours, c'était le grand banquet qui ensuite a été travaillé au XVIIIe siècle et puis est passé à la faveur des restaurants dans le monde bourgeois au XIXe siècle.
Voilà, c'est ce que vous racontez dans l'introduction d'ailleurs de ce livre, l'alimentation demain, culture et médiation.
Donc c'est ça, en fait, c'est ça qu'on appelle le repas gastronomique des Français, mais qui est un repas d'exception, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pratique le dimanche à certaines occasions. Calendaire, festive, donc voilà, et que on décline avec des petites solutions paysannes de temps en temps la semaine, mais c'est pas notre nos modes de vie finalement sont exactement ceux du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des modes de vie extrêmement hachés, complexes, voilà. Et le repas que l'on évoque, et surtout le repas bourgeois qui a été à l'origine de cette institution dont j'aime dire qu'elle est extrêmement coercitive pour les enfants, parce que c'est là qu'ils apprennent la sociabilité en France, à table, tiens-toi bien, parle pas la bouche pleine, passe le plat au voisin, etc. Effectivement, ça se délite un peu. Mais ce qui se délite, c'est pas tant le repas que ce qui se passe au repas. Et ce qui se passe pendant les repas, c'est aujourd'hui des enfants qui ont la parole, qui sont des enfants rois, et le système éducatif qui était celui de la bourgeoisie autour de la table est en train de disparaître. Donc ça va nous faire revenir aux sources de la gastronomie française, qui était que le repas dont vous parlez, c'est considéré comme un temps de loisir, comme une pièce de théâtre. D'ailleurs, il y a une entrée, un plat, un dessert, il y a de la musique. On est dans quelque chose qui est exactement ce qu'a voulu Louis XIV, c'est-à-dire un moment festif. Ouais. Mais c'est pas tous les jours la fête. Ouais, ouais. Quand on travaille...
Ouais, mais Tristan Fournier, quand j'entends Gilles Fumet, il dit le repas au singulier, le repas. Sous-entendu, on partage tous le même. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que précisément, on ne partage pas tous le même repas. On a des régimes de plus en plus spécifiques qui se multiplient. Alors, on a vu d'abord le régime végétarien, le régime végétalien, on a le véganisme qui est en plein essor, sans compter toutes les intolérances diverses et variées. On voit que finalement, on ne mange plus la même chose. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce nouvel environnement, comment conserver une commensalité?
Bah, c'est, il y a différentes échelles, en fait. On peut regarder, justement, une échelle un peu culturelle de justement parler de l'héritage de la gastronomie française et de remarquer que, oui, a priori, en termes de socialisation en France, on est plutôt préparé à manger ensemble, à plutôt manger la même chose pour un héritage aussi religieux, catholique. Et donc, en tout cas, on a une espèce d'échelle culturelle qui nous prépare justement à cette commensalité, à une appétence pour les dimensions gustatives, hédoniques de l'alimentation, sociale aussi, etc. Mmh. Et puis, on a aussi tout ce marché, l'industrie, l'inspiration d'autres pays, notamment les États-Unis, qui surfent plutôt sur une vague individualisante où le plaisir personnel est mis en avant, où les notions de performance et d'optimisation sont très fortes. Et j'ai envie de dire presque cette nouvelle alimentation surfe sur une vague de développement personnel presque. On a envie de prendre soin de soi, on est plus libre dans nos choix, etc. Donc on a cette dualité, mais qui est aussi liée à l'échelle à laquelle on regarde justement les pratiques alimentaires.
Gilles Fumet, vous vouliez réagir sur ce point?
En fait, sur la commensalité, je pense qu'il faut il faut regarder ça à l'échelle mondiale et se dire qu'en fait il y a plusieurs types de commensalité. Les Chinois et les Indiens, par exemple, ils pratiquent la commensalité sur une table ronde, qui est sur laquelle vous avez des multiples plats, voilà, et qui est composée non pas par des cuisines, mais par des médecines, dans laquelle qui permettent à chacun de choisir ce dont il a besoin, ce qu'il a envie, de, exactement comme au temps de Louis XIV, c'est vrai. Vous voyez, mais quelque chose qui est fabriqué sur un modèle médical. Voilà, et qui fait qu'on se retrouve ensemble, mais chacun prend ce qu'il veut, et au fond, ce qui vous gêne, qui est de dire « Ah, mais il faut absolument partager le plat collectif », oui, bien sûr que ça, c'est un reste de ce qu'on avait autrefois avec la marmite dans l'âtre, où on allait effectivement chercher un bol de bouillon dans lequel on mettait du pain ou du lard, voilà, et qui était le symbole du partage. Mais rien ne dit que dans le bol qu'on allait prendre dans la marmite, on ne mettait pas aussi autre chose, et on ne singularisait pas, au fond, sa nourriture. Hein, donc, essayons de penser que la commensalité, c'est bien sûr partager le même plat ou le même vin, hein, mais c'est aussi tout plus simplement être ensemble, voilà, et avoir des modalités différentes selon que l'on est indien, chinois, voilà, africain et même américain avec le barbecue, hein, ou même marocain avec le méchoui. Hein, oui, c'est ça qu'il faut.
Gilles Fumet, ce qu'on a vu aussi apparaître beaucoup, c'est des nouvelles applications qui vous permettent de scanner des produits et qui vous indiquent la qualité nutritionnelle des aliments. Vous l'avez peut-être dans votre portable ou peut-être pas, peu importe. Yuka, il y en existe d'autres. Open Food Facts, enfin, il y en a un certain nombre. Plusieurs questions. Est-ce qu'on peut d'abord avoir confiance dans ce type d'outils? Parce que, évidemment, le cœur de la chose, c'est d'affirmer, en tout cas, je ne sais pas si elle est réelle, mais une forme d'indépendance vis-à-vis du monde de l'agroalimentaire, de sorte à échapper à ces pièges. Et la deuxième question qui va avec, c'est quels effets réels de ce type d'application sur nos modes de consommation? On va commencer avec vous, Gilles Fumet, et ensuite Tristan Fournier.
Alors, je dirais peut-être plutôt que c'est un système de réassurance vis-à-vis de ce qu'on mange. Parce qu'on a besoin d'être rassuré sur ce qu'on mange, parce que par définition, nous avons gardé des périodes où nous étions chasseurs-cueilleurs la crainte de nous empoisonner. Donc ce qu'on ne connaît pas et ce qui est compliqué à comprendre nécessite un certain nombre de signaux. Voilà. Alors chez nous, on avait les indications géographiques, on avait un certain nombre de choses comme ça. Mais avec l'industrialisation, effectivement, le message est quand même très compliqué. Et je dirais que les applications, c'est la revanche des consommateurs qui vient quand même après les crises de confiance à partir de la vache folle, 96, hein, je veux dire. Avant, bon, alors maintenant, il n'y a pas d'application, mais si vous voulez, on ne mettait pas tellement en cause la qualité des produits industriels à cette époque-là. Non, et puis on n'avait pas assez de recul. Pisani, qui est celui qui a défendu le modèle agricole productiviste. C'est à la fin de sa vie qu'il a, qu'il s'est
qui était ministre de l'agriculture de Charles de Gaulle.
De Charles de Gaulle, hein, et qui a quand même lancé.
Qui a négocié la PAC.
Ah oui, voilà, et qui a quand même à la fin de sa vie, avant de mourir, qui s'est voilà, qui s'est confessé dans un livre assez très éprouvant où il dit que s'il avait été mieux informé, il aurait sans doute pas fait ce qu'il a fait. Donc il y a cette question de la réassurance. Je pense que c'est aujourd'hui c'est une modalité qui est liée effectivement au smartphone. Je suis pas sûr que ça on va faire ça souvent quand même, parce qu'on va pas passer notre temps au supermarché à essayer de scanner tous les produits et regarder. Ça va prendre un temps fou et ça va nous décourager. Je pense que ça va être utile pour un certain nombre de choses. Je pense que ça va pousser les industriels à accepter le Nutri-Score. Hein, en tout cas ceux qui l'ont pas encore fait, parce que progressivement les choses avancent. Voilà, de toute façon ils sont acculés à cette question là voilà. Après les impacts, c'est ceux là les impacts, c'est justement que dans l'industrie on prenne conscience que on ne peut pas continuer comme avant, et que il est inadmissible dans notre pays que les deux tiers des 340 additifs de l'industrie agroalimentaire soit autorisée, alors que la plupart sont déjà interdits à l'étranger.
On ne peut pas continuer comme avant. J'ai l'impression que ça fait 20 ans, 25 ans qu'on dit ça, depuis notamment la vache folle. C'est quelque chose qu'on entend très régulièrement. Il y a eu depuis de très très nombreuses crises. Mais on va revenir sur cette crise de la confiance, Gilles Fumet. Tristan Fournier, sur ces nouveaux outils que j'évoquais, ces nouvelles applications qui vous permettent de vérifier si le produit que vous êtes sur le point d'acheter est un bon produit ou pas. Il y a plusieurs questions, celle de l'indépendance réel ou non vis-à-vis du monde de l'agroalimentaire, disons, de l'industriel. Il y a la question de savoir si ça modifie réellement nos comportements. Tristan Fournier.
Moi, je suis peut-être un peu plus critique justement sur ces outils. Donc, ce qui est promis, c'est bien sûr cette autonomisation dans nos choix alimentaires et, dans une certaine mesure, une émancipation justement de vis-à-vis de l'industrie, puisqu'on pourrait justement choisir, et quand ça nous plaît pas ou quand on a un choix un peu équipé par les recommandations qui sont associées à ces outils, on pourrait dire non, je prends pas cet aliment là et je vais en prendre un autre.
Ce qu'on fait,
alors je sais pas, faudrait regarder finement comment est-ce qu'on pratique justement cet outil en supermarché. Je suis pas sûr que les gens soient tous avec leur smartphone.
Je vais vous dire, ça tombe bien, il y a une étude qui a été faite par un institut de sondage qui s'appelle l'IFOP. L'étude dit que lorsque la note est mauvaise, un consommateur sur trois change de marque.
Alors là, c'est sur cet aspect-là que je pourrais être un peu plus critique. C'est que cette émancipation, à mon sens, elle est plutôt illusoire, dans la mesure où le produit, quand il ne vous plaît pas, on vous propose un produit, certes différent, peut-être mieux noté par le Nutri-Score, mais qui reste dans cet environnement de l'agroalimentaire, puisqu'on scanne des codes-barres, et donc on reste justement dans ce vase clos de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une salade de carottes râpées sous vide, et qu'on vous donne la note C, et qu'on vous propose une note A pour une autre salade, ça sera pas pour acheter des carottes crues que vous allez préparer, ça sera pour acheter d'autres.
Donc oui, on reste vraiment
un exemple assez magnifique de la
c'est
capacité
une fausse émancipation.
La capacité de l'industrie à digérer les critiques et à toujours se réinventer.
Gilles Fumet, peut-être à nouveau sur ce point. Et puis, en réalité, d'une certaine manière, c'est un nouvel outil, mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Il y a des étiquetages qui existent depuis fort longtemps. L'étiquetage nutritionnel, c'est quelque chose qu'on connaît ici en France. Au Mexique, je crois, c'est le mois dernier, on a fait passer une nouvelle loi qui instaure précisément cet étiquetage. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant, parce que le Mexique, c'est un pays où l'obésité s'est considérablement développée. D'ailleurs, en particulier depuis qu'on importe l'essentiel de son alimentation, alors que le Mexique produit énormément de fruits et légumes. Enfin, il y a quand même une hérésie dans tout ça. Mais est-ce que cet outil de l'étiquetage, il a changé quelque chose, parce que ça existe depuis des années.
Non, je pense pas. Il y a toujours la tentation pour celui qui étiquette d'en dire le moins possible, voilà, d'aller sur le fil entre ce que souhaite le consommateur et en fait ce qui n'arrange pas un producteur. Je pense par exemple dans le vin les sulfites, qui était quand même quelque chose qui passait assez relativement bien aujourd'hui, qui passe moins bien aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a des tentatives comme ça pour alléger les étiquettes et limiter les messages. Non, je pense qu'il y a un jeu de cache-cache.
Ouais.
hein, voilà, qui est que bon ben l'industriel il va tout faire pour que son produit soit rassure, hein, voilà, et c'est le sens de la publicité, et je dirais du matraquage publicitaire, ouais, à la télévision où on voit des gens manger et avoir des mines gourmandes, voilà, alors même qu'ils mangent des choses qui, ouais, que Open Food Fact nous dit de pas manger.
Alors justement, Gilles Fumet, je reviens sur la crise de confiance que vous évoquiez tout à l'heure, parce que finalement, ce qu'il y a derrière le succès de ces applications, c'est ce désir, ce besoin de transparence vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Vous le disiez, il y a eu très régulièrement des crises. Il y a eu évidemment la vache folle, vous l'évoquiez. Il y a eu, je sais pas, le scandale Spangero, où vous faisiez passer la viande de cheval pour la viande de bœuf. Il y a eu le scandale Lactalis, très récemment. Enfin, il y en a très régulièrement. À chaque fois, on se dit que ces crises, elles vont être précisément une formidable opportunité pour introduire un peu plus de transparence dans ce système où l'opacité règne en maître. Et puis, on a le sentiment qu'en réalité, cette transparence, elle vient jamais. Est-ce qu'il y a des raisons de croire, Gilles Fumet, que ça peut s'améliorer ?
Oui, ça peut s'améliorer parce que quand même, j'évoquais les sulfites, mais d'une manière générale, les additifs sont maintenant beaucoup mieux surveillés. Les effets cocktails sont beaucoup plus mieux connus. Hein, donc, je pense que ça va s'améliorer. Et puis surtout, on a des exemples, alors qui sont pas dans l'alimentation, mais qui sont pas très loin. Ce qui s'est passé sur le tabac. Alors là, on va prendre un autre biais qui ne sera pas seulement le biais environnemental, comme on le voit aujourd'hui, hein, mais à mon avis, qui sera le biais financier. C'est-à-dire que on va progressivement arriver à faire savoir aux consommateurs que le coût des maladies liées à une mauvaise alimentation qui provoque quand même le diabète, l'obésité, les cancers, les maladies cardiovasculaires, c'est 55 milliards par an en France. 55 milliards par an en France. Et on a combattu le tabac comme ça, en disant le tabac ça coûte tant, l'alcool ça coûte tant. Et je pense que si on arrive à convaincre les politiques que c'est vrai que les lobbies doivent exister, mais qu'ils doivent aussi faire preuve de courage politique, voilà, et que nos finances pourraient être un peu allégées de ce fardeau financier, là effectivement on va avancer. Et je pense que la prochaine bataille, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'elle n'est pas, elle est pas compréhensible, parce que c'est tellement évident. Mais comme c'était tellement évident qu'un prof fume devant ses élèves quand j'étais étudiant, mes profs de philo fumaient en cours devant moi. Si je leur avais dit que 20 ans plus tard ils seraient des criminels, personne ne m'aurait cru. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes à la veille d'une criminalisation du sucre. Voilà, de l'excès de sucre. Mmh. Voilà, et que parce qu'il y a,
il y a de l'excès de viande aussi.
Pardon?
Et peut-être de l'excès de viande aussi.
Et l'excès de viande aussi, voilà, de viande. Bah, ça commence déjà la viande, mais le sucre, parce qu'il y a un tel coût financier, et surtout, vous avez évoqué le Mexique. Là, vous avez des pays qui sont complètement drogués, hein, et parce qu'on est parti, à mon avis, sur une mauvaise base, qui était que le sucre était un produit pensé comme une épice, alors que on aurait pu le penser comme une drogue. Ouais. Hein, et aujourd'hui, on va dire donc. Il y a plusieurs biais, voilà. Et je dirais que les politiques peuvent faire pression pour que ça change, puisque vous avez l'air de penser que ça change pas. Donc ça, c'est vrai. Non, mais vous posez la question, et c'est vrai qu'on a ce sentiment-là.
En tout cas, peut-être pas assez vite. Oui, s'agissant du Mexique, c'est absolument incroyable. C'est par exemple un pays qui consomme énormément de soda, mais au Mexique, on peut rajouter du sucre dans son soda. Tristan Fournier.
Oui, je vais rejoindre un peu ces propos, dans le sens où... si je reviens à ces applications, c'est quand même aussi assez emblématique du fait que la responsabilité nous incombe toujours à nous, consommateurs ou mangeurs, dans l'idée de faire de bons choix éclairés pour notre propre santé, pour la collectivité, pour l'environnement. Alors que je crois qu'on pourrait aussi s'attendre à ce que les politiques, le gouvernement puisse agir, par exemple en régulant certains additifs, par exemple en régulant certains intrants, etc., plutôt que de nous faire porter cette responsabilité dans nos choix, en fait.
Sauf que visiblement, ces choix-là, on ne les fait pas forcément. On va prendre l'exemple de la viande. La viande, voilà, c'est pas bon, la viande, parce que c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour la santé, etc. Donc, il faut baisser la consommation. Il se trouve que, depuis la fin des années 90, la consommation globale par habitant en France, elle était en diminution. Et voilà que, l'année dernière, elle est remontée. Donc, on voit bien que il y a vraiment des résistances qui sont très fortes. On sait que c'est pas bon pour la santé, vous l'avez dit, Gilles Fumet. On sait que c'est pas bon pour la planète, parce que c'est des émissions de gaz à effet de serre absolument colossales. Et pourtant, on mange de plus en plus de viande. Enfin, attention, depuis l'année dernière, alors que ça baissait structurellement depuis 20 ans.
Ouais, et puis alors, on pourrait discuter un petit peu des chiffres, mais moi j'avais surtout retenu que ça baissait quand même depuis une dizaine d'années, légèrement. Après, il faut regarder plus en détail. Hein. Il y a des morceaux de viande qui baissent. Enfin, la consommation de certains morceaux de viande baisse plus
que
d'autres.
Le bœuf et le porc baissent alors que le poulet monte.
Donc ça, si vous regardez un peu autour de vous, souvent les gens disent « moi je mange moins de viande parce que je préfère en manger moins mais de meilleure qualité ». En général, ces personnes-là mangent, enfin, moi compris, hein, on dit manger moins de viande, mais souvent on mange moins de viande, c'est-à-dire de steak de bœuf, hein, en général c'est ça que ça veut dire, mais la consommation de volaille, de lardons, de produits préparés avec de la viande, celle-ci elle stagne, peut-être même elle augmente.
Ouais, pour le poulet,
je crois qu'il faut être attentif à ces chiffres-là.
Ça augmente effectivement.
Et puis la proposition dans les restaurants reste encore très largement carnée. Enfin, c'est quand même incroyable de voir que, on va dire, 2 restaurants sur 3 sont encore dans l'ancienne proposition. Hein, et que quand on demande dans un restaurant, pas forcément un restaurant spécialiste de la viande, mais qui va s'appeler, je sais pas, Auvergnat ou je sais pas quoi, dans lequel tous les plats sont à base de viande, hein, vous dites, mais vous ne devriez pas avoir quelque chose de végétarien. Alors, on vous regarde déjà comme... Et puis, on vous donne une salade dans laquelle il y a pas de protéines, il n'y a rien du tout. Donc, je pense qu'il y a quand même toute une génération des gens qui ont vécu là-dedans, voilà, et qui sont là et qui vont disparaître, parce que c'est clair que la moitié des restaurants tels qu'ils sont conçus aujourd'hui vont être formatés, disparaître, et donc je pense que ce que vous avez évoqué, à mon avis, c'est un palier, hein, mais qu'on va quand même vers une baisse de la consommation.
Tristan Fournier.
Bon, puis je pense qu'il faut aussi préciser qu'on ne mange pas seulement pour des raisons sanitaires, nutritionnelles ou écologiques. En fait, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais il y a tout un tas d'autres dimensions qui expliquent aussi que, oui, certains groupes sociaux, en tout cas, continuent de manger de la viande pour des raisons culturelles, gustatives, d'habitude, de routine, tout un tas de choses qui sont aussi notre rapport à l'alimentation, en fait. Hein, je crois qu'on parle beaucoup de nutrition et d'écologie aujourd'hui, puisque ce sont les deux injonctions les plus prégnantes en matière d'alimentation. Mais il y a aussi d'autres dimensions qui sont extrêmement fondatrices de notre rapport à l'alimentation.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire que manger de la viande, c'est aussi peut-être assumer le fait d'une certaine culture, une certaine habitude familiale, voire sociale, etc. On le voit dans la consommation de viande. En fonction de notre positionnement dans l'échelle sociale, on ne mange pas de la même manière, ni les mêmes quantités. Et donc manger de la viande, c'est pas seulement soit se foutre de l'écologie, soit se foutre de notre propre santé. Ça peut être aussi faire... expliquer une certaine habitude familiale ou sociale, etc.
Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand on regarde effectivement les choses en fonction du niveau socio-professionnel, disons-le comme ça, de la catégorie, on se rend compte qu'en réalité, c'est les classes les plus défavorisées qui modifient le plus facilement leurs habitudes alimentaires, et en particulier s'agissant de la viande. Là où, effectivement, la baisse de la consommation de viande est la plus forte, c'est dans les catégories les plus hautes. Oui. Chez les ouvriers, ça a même augmenté.
Oui. Je pense que là, c'est très compliqué. Je pense que c'est plutôt sociologie, hein, mais à mon avis, c'est très compliqué de changer de mode alimentaire quand on est pauvre. C'est beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus difficile parce que c'est un mode d'être qui est difficile à changer. On a étudié le cas des plaintes des gilets jaunes sur les budgets. Elle disait, mais je peux plus me payer de la viande comme autrefois, vous voyez. Bon, mais ils mettent pas en cause le fait que précisément c'est l'opportunité pour changer de régime. Hein, ils le vivent comme un déclassement. Hein, donc c'est pas aussi simple. Et je crois que la viande reste quand même encore pour un certain nombre de personnes un certain standing.
Surtout qu'elle a augmenté et plus vite que l'inflation. Oui, d'où le résultat. Gilles Fumet, projetons-nous un tout petit peu encore plus vers le futur. On a parlé évidemment des contraintes environnementales, de ce que fait peser précisément la production, la consommation de viande sur l'écologie. Alors, on essaye de voir quels pourraient être les régimes qui régleraient un peu les problèmes, c'est-à-dire à la fois le problème environnemental, mais qui permettraient aussi l'apport nutritionnel pour chacun. Et il y a récemment des chercheurs américains de l'Université Baltimore qu'ont calculé l'empreinte carbone de 9 régimes alimentaires, classés selon le degré de végétalisation du régime, de l'alimentation, donc analysé de façon globale en fonction des habitudes, des besoins alimentaires des 140 pays sur lesquels la FAO a des mesures un peu claires. C'est une étude qui a été publiée récemment dans Global Environmental Change et elle permet de voir pays par pays donc quel serait le régime qui a la plus faible empreinte carbone en tenant compte évidemment des besoins nutritionnels. Et la première leçon de l'étude, c'est de dire qu'il n'y a pas de régime universel unique qui va permettre de répondre au double défi de l'environnement et de la lutte contre la malnutrition. Il faut adapter pays par pays.
Ben oui, c'est
ça
c'est,
vous semble évident.
Ben c'est évident parce que évidemment on mange en fonction du climat déjà. Vous savez très bien que l'été on mange pas la même chose que l'hiver et peut sans doute moins. Hein. Donc je pense qu'il y a il y a des facteurs qui sont tout simplement des facteurs géographiques, climatiques qui sont importants. Ensuite il y a tout ce qui relève de la culture locale. Voilà, vous avez des pays qui ont fait de la nourriture une obsession. Moi, j'ai des étudiants américains, hein, qui ne sont pas les moins mal nourris, qui viennent en cours avec de la nourriture dans leur sac, comme s'ils allaient, américains, ils se trimballent avec de la nourriture. Et ça fait partie de sa culture. Mmh. Donc, vous avez comme ça des éléments qui font que pays par pays, le rapport à la nourriture est complètement différent. Et surtout, on a évoqué tout à l'heure la question des repas, hein, des pas pensés de la même manière. Et je crois que on peut faire des études à l'échelle mondiale. Et les Américains là-dessus, Baltimore, c'est quand même
c'est quoi
à mon avis, c'est pas ceux qui sont à mon
les
avis,
mieux placés.
Non, mais c'est pas ceux qui sont mieux à même de comprendre qu'il y a d'autres cultures que la leur.
Voilà. Bah justement, on va en visiter une tout de suite. Autre culture d'État avec vous, Gilles Fumet, et vous, Tristan Fournier. On s'interroge sur le menu du futur. Est-ce que le menu du futur, il pourrait y avoir sur la table, parce qu'il faudra quand même le partager. Des algues, par exemple. Bah, il y a un pays qui est très friand des algues, c'est le Japon.
France Culture. Culture Monde, Florian Delorme.
Voilà, là, une petite recette d'une blogueuse japonaise qui nous prépare une algue brune à la texture charnue, croquante, dont les Japonais raffolent, kombu, nori, wakame, ijiki, des algues comestibles qui sont extrêmement présentes dans la gastronomie nippone. On en trouve un peu partout, dans les sushis, dans les soupes miso, mais aussi dans les salades. Est-ce que le monde va finir par se convertir aux algues? On va retrouver tout de suite Philippe Potin, qui est directeur de recherche au CNRS à la station biologique de Roscoff, un spécialiste des algues marines. D'abord, Philippe Potin, quelle est la réalité de la présence d'algues dans les régimes alimentaires asiatiques? Est-ce que tout le monde en mange? Dans quelle proportion, Philippe Potin?
Oui, on en consomme alors essentiellement donc dans une région d'Asie, hein, qui est la région donc entre le Japon, les deux Corées et la Chine, et aussi bien sûr Taïwan, où vraiment donc il y a une tradition culinaire qui existe depuis des siècles. Et par contre, donc dans le reste de l'Asie, en particulier ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est, hein, donc où l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et autres, on a des traditions donc d'utilisation des algues beaucoup moins importantes. Il y a notamment les propriétés gélifiantes des algues qui sont utilisées dans ces pays-là pour dans certaines préparations, qu'elles soient justement pour épaissir des soupes ou certains desserts. Mais c'est pas du tout la même culture qu'en Chine, au Japon et dans les Corées.
Est-ce que il y a, parce que il y a algues et algues, si je puis dire, Philippe Potin, il y a évidemment des algues assez classiques qu'on va trouver dans des mets qu'on connaît tous, les makis, la soupe miso, etc., etc. Mais il y a aussi des mets beaucoup plus fins, particulièrement appréciés. Je pense par exemple au kombu japonais, qui est récolté traditionnellement par des plongeuses du nord de l'archipel, qui est considéré comme vraiment un mets d'exception, qui peut d'ailleurs atteindre des prix assez élevés. À l'arrivée, est-ce que finalement tout le monde mange des algues, ou est-ce que globalement on peut dire que, ben voilà, leur rareté, leur prix fait que, d'une certaine manière, les personnes défavorisées en consomment moins, Philippe Potin?
Non, il n'y a pas vraiment de catégorie effectivement sociale qui consommerait moins d'algues dans ces pays-là. Par contre, effectivement, l'accès à des algues de très grande valeur est réservé à certaines catégories aisées, et également fait l'objet surtout d'utilisation dans des circonstances exceptionnelles.
Philippe Potin, on parle très souvent des effets bénéfiques des algues pour la santé. On nous explique parfois que si les Japonais ont moins de cancer que nous, bah c'est parce que précisément ils ont un régime alimentaire particulier et notamment parce qu'ils mangent des algues. Jusqu'où est-ce qu'on peut corréler cette idée, c'est-à-dire que au fond le régime alimentaire et en particulier la consommation d'algues est bon pour la santé, et jusqu'où est-ce qu'on peut espérer, nous autres occidentaux, bénéficier de ces bienfaits à la faveur du développement de ces algues dans notre alimentation?
Je pense qu'il faut vraiment distinguer le fait que on a des études sur des régimes alimentaires, notamment les régimes alimentaires japonais, qui montrent qu'il y a des impacts très importants sur la prévalence de certains cancers, notamment. Ça a été démontré, par exemple, chez les femmes japonaises qui avaient immigré après la Seconde Guerre mondiale, et à des taux intermédiaires, en fait, dans l'archipel des îles d'Hawaï, où, en fait, le régime reste mixte entre un régime purement occidental et le régime japonais. C'est vraiment des corrélations avec des études donc là, épidémiologiques qui montrent l'importance de ce régime alimentaire, mais forcément, dans le régime alimentaire, il n'y a pas que des algues, il y a aussi bien d'autres produits, que ce soit des produits de la mer, bien sûr, mais aussi des produits terrestres. Donc, en fait, c'est globalement qu'on peut corréler ces régimes alimentaires à ces prévalences de certaines maladies qui sont bien inférieures dans ces populations.
Philippe Potin, il y a une autre question qui se pose, c'est d'où viennent aujourd'hui les algues qui sont consommées en Asie? Est-ce qu'elles sont récupérées en mer à l'état sauvage? Est-ce qu'elles sont cultivées dans des parcs aquatiques?
Donc essentiellement 95% maintenant de la production en Asie vient d'algues cultivées, essentiellement dans des parcs de culture en mer. Traditionnellement, c'était plutôt sur des estuaires accessibles à marée basse qu'il y avait la culture de nori. Et puis, lorsqu'on a commencé à développer la culture du kombu et d'autres algues comme le wakame, ça s'est traduit aussi par le fait de développer des lignes de culture en mer. Donc tout ça, ça a commencé il y a 60 ans à peu près. Donc, bien sûr, ces cultures se sont étendues de manière considérable. Seulement 30% en fait de ces cultures rentrent directement dans l'alimentation humaine. Donc il y a aussi des cultures qui existent maintenant en Asie, qui représentent près des 2/3 de la production mondiale. Elles ne sont pas utilisées directement dans l'alimentation, mais sont utilisées pour produire des gélifiants ou des épaississants, dont certains vont se retrouver dans l'alimentation, mais pas systématiquement.
Oui, vous racontez notamment que c'est Mao qui, dans les années 50, avait lancé des recherches très importantes sur les algues pour répondre aux carences alimentaires des Chinois, et notamment les carences en iode. Et donc, on a fini par découvrir et maîtriser cette culture d'algues sur corde. Et on a développé tout un secteur dans des grands bassins inter. Alors maintenant, il n'y a pas seulement la Chine qui en fait. Il y a un autre pays qui a beaucoup investi dans la culture d'algues, c'est la Corée. Il y a eu un récent rapport de la FAO sur les plantes marines, dans lequel était mentionné le fait que la Corée du Sud avait exporté en 2016 34 500 tonnes d'algues de culture pour une valeur de 222 millions de dollars. Où Séoul vend justement cette production-là? Quels sont les pays qui commencent justement à consommer ces algues?
Les premiers pays consommateurs, c'est bien sûr les pays voisins asiatiques, que ce soit le Japon ou la Chine, puisque les consommateurs sont très très nombreux. Et surtout, dans certains cas, il y a pu avoir des baisses de production, notamment au Japon, après par exemple l'accident de Fukushima, où les pays qui ont pu produire, c'est notamment la Corée du Sud qui produisait des algues équivalentes, avec des qualités équivalentes. Et c'est vrai que les Japonais préfèrent la qualité des algues coréennes à celle des algues chinoises, par exemple.
Et est-ce que ce qu'on vend à l'étranger, ce qu'on exporte, est-ce que c'est exactement la même chose que ce qu'on consomme sur place? Ou est-ce qu'on modifie le conditionnement, la présentation, que sais-je?
Non, actuellement, tout ce qui est exporté vers les pays occidentaux, alors les premiers pays, bien sûr, importateurs, c'est les États-Unis, le Canada, où il y a des populations asiatiques aussi qui ont immigré, donc qui sont très très importantes. Et puis, il y a tout le développement de la cuisine asiatique, et notamment les cuisines japonaises ou coréennes, qui ont fait que il y a beaucoup d'importations pour ces types de restauration. Maintenant, ça vient aussi dans nos grandes surfaces, avec un certain nombre de consommateurs qui sont initiés à ces cuisines-là et qui apprécient les mêmes produits qu'on peut trouver en Asie. C'est essentiellement les feuilles de nori, à préparer de différentes façons, que ce soit dans des makis ou d'autres plats coréens, par exemple, qui les incorporent, ou des feuilles de kombu ou de wakame qui sont souvent après incorporées dans des soupes ou dans des salades. Donc là, il y a différents modes de préparation qu'on peut retrouver.
Oui, et puis on peut peut-être noter aussi que la France commence à produire des algues. La production annuelle, c'est à peu près 80 000 tonnes. Donc oui, vous vouliez dire quelque chose, je vous en prie.
Oui, c'est sur ces 80 000 tonnes, en fait, il y en a très très peu qui vont directement dans l'alimentation humaine, justement. Ouais. C'est cette production, en fait, 80 000 tonnes humides, hein, donc tout à l'heure vous parliez de 34 000 tonnes exportées par la Corée, c'est des tonnes sèches. Donc en fait, si vous reportez qu'on a à peu près 90% d'eau dans les algues, donc ça fait en tonnes humides, c'est presque 300 000 tonnes, donc l'exportation. Donc, nous, en France, on récolte essentiellement donc à partir des populations naturelles, hein, c'est pas de la culture, donc près de 80 000 tonnes effectivement humides, mais dont plus de 90% vont aller vers l'agroalimentaire ou dans industries. Donc en France, on produit 2000 tonnes d'algues qui vont directement vers l'alimentation humaine. C'est effectivement une nouvelle activité qui est née les pionniers existaient il y a une trentaine d'années, mais ça a vraiment décollé au cours des 15 dernières années avec différents produits là qui sont différents des produits qu'on trouve en Asie, hein, donc c'est des tartares d'algues, c'est certaines formes de salades, de marinades d'algues, des produits aussi en conserve pour une utilisation assez facile comme par exemple le haricot de mer là, donc qui est un produit assez unique puisqu'on le trouve que dans l'Atlantique du Nord-Est, donc c'est un produit qu'on ne peut trouver qu'en Europe.
Oui, qui n'est pas utilisé, qui n'est pas consommé par les Asiatiques. Donc, ce qui est intéressant, Philippe Potin, c'est qu'en réalité, mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, quand les produits voyagent d'une région à l'autre, ils sont forcément réadaptés en fonction du contexte culinaire local. Et donc, il y a une forme de réappropriation culturelle par laquelle on invente de nouvelles recettes. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Occident avec les algues.
Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de créativité dans les entreprises qui vont aussi, bien sûr, s'inspirer des procédés utilisés en Asie. Donc, les premiers procédés pour à la fois conserver les algues et puis aussi les attendrir, c'est notamment toute la conservation dans le sel, hein, dans la saumure. Puis aujourd'hui, il y a aussi des entreprises qui explorent le potentiel de la fermentation, puisque c'est une façon aussi de conserver les algues, comme on peut conserver du chou, sous forme de choucroute chez nous, ou de kimchi en Corée, on peut conserver des algues fermentées. Donc tout ça, c'est exploré aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup à faire pour notamment tirer bénéfice de tous les intérêts nutritionnels des algues. On pourrait aller vers de plus grandes transformations des algues ici en France notamment.
I don't want to be caught. Merci beaucoup Philippe Potin d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Tristan Fournier, on a parlé des algues, mais on aurait pu parler des insectes.
Exactement, c'est ce que je me disais. On aurait fait l'émission il y a quelques années, probablement on aurait parlé plus des insectes, hein, puisque c'est déjà maintenant presque une mode un peu installée.
Ah, une mode, n'exagérez pas. Hein. Le tabou alimentaire reste encore extrêmement fort en Occident.
Hein. En France, en tout cas.
En France, en tout cas, même s'il y a quelques entreprises, on a vu. Mais c'est vrai que on aurait pu en parler davantage, mais on vous réinvitera, parce que c'est excellent du point de vue des protéines. Et en plus, l'impact sur l'environnement, l'empreinte carbone est beaucoup plus faible que quand on fait évidemment des porcs, des bœufs, etc., etc. Donc, on vous réinvitera. Gilles Fumet, dernière réaction.
Oui, alors moi, c'était plutôt sur l'ensemble de l'émission, notamment ce que vous avez dit à propos de la Californie tout à l'heure, parce que finalement, ouais, tout vient de là. La Californie, elle me fait penser à l'Europe en 1348, vous savez, au Moyen-Âge, c'est l'apogée, tout ça, et un rat arrive à Marseille, il nous fout la peste, et on a deux tiers de la population qui disparaît. Vous allez me dire, la Californie, on n'en est pas là, mais je vous rappelle, inondation, incendie. Dans le pays le plus riche du monde, des gens en Californie, au lieu de s'occuper des incendies et de l'eau, s'occupent à nous amuser, à faire des jeux vidéo. Et donc, à mon avis, avec un petit séisme, la Californie, dans quelques années, disparaît comme l'Europe de 1348.
Parlez quand même pas de malheur. Gilles Fumet, Tristan Fournier, merci beaucoup à l'un et à l'autre. Les livres, les colloques pour vous demain, Tristan Fournier, tout ça sur la page de Culture Monde, 11h53.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Sale temps pour l'Europe. Elle voit le monde qu'elle avait contribué à édifier se défaire, Brice.
Eh oui, l'Union européenne a été l'un des acteurs majeurs et l'un des principaux bénéficiaires de l'état du monde qui préexistait à Donald Trump. Le multilatéralisme, l'ouverture des marchés mondiaux et leur régulation par des institutions internationales, l'arbitrage préféré au rapport de force, bref, ce qu'on appelle l'ordre libéral international correspondait parfaitement aux conceptions et aux intérêts de l'Europe. Et pour cause, nous sommes une très grande puissance économique et commerciale, mais notre manque de cohésion interne nous rend peu aptes aux prises de décisions stratégiques. D'où notre réluctance à entrer dans le nouveau monde, celui qu'un collectif dans Der Spiegel décrit comme de plus en plus polarisé, divisé en deux sphères politiques et économiques. Alors le conflit n'est pas vraiment de nature idéologique comme pouvait l'être la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, non, c'est un affrontement d'ordre économique et commercial pour le moment. La stratégie de Trump consiste à découpler les deux systèmes de production. À ses yeux, les chaînes de valeur américaines étaient devenues trop dépendantes des usines chinoises et les Chinois avaient un accès trop aisé aux technologies de pointe américaines. Non seulement donc ils ne cessent de dresser des barrières douanières aux importations chinoises, mais ils tentent d'isoler certaines entreprises chinoises qui l'inquiètent, comme Huawei. Il a ainsi obtenu de Google et d'Intel qu'ils cessent leur collaboration avec le géant chinois de l'équipement téléphonique. Pékin, de son côté, fait mine de se réjouir de cette tentative d'isolement. Cela ne peut que hâter notre propre développement dans la high-tech et nous pousser à ne compter que sur nous-mêmes, prétend ainsi Liu He, le principal responsable des négociations commerciales internationales.
Mais Brice, nous autres Européens, quel parti devons-nous prendre, en tout cas si on veut défendre au mieux nos intérêts?
Alors le think tank bruxellois Bruegel vient de publier une étude qui tente de répondre à cette question. Elle est signée Alicia Garcia Herrero. Jusqu'à présent, écrit-elle, l'UE s'est accrochée au multilatéralisme et a tenté de maintenir à tout prix, mais croire qu'on peut le sauver en collaboration avec les Chinois est d'une grande naïveté, écrit-elle. La réalité, c'est que l'UE risque de rester isolée dans sa quête du multilatéralisme, du moins dans la forme que nous connaissons aujourd'hui. À court et moyen terme, l'UE peut en effet bénéficier de la guerre commerciale sino-américaine, parce que les secteurs de l'économie américaine et des économies européennes qui exportent le plus vers la Chine, eh ben c'est les mêmes, à savoir dans l'ordre, équipements de transport, véhicules à moteur, équipements médicaux, produits chimiques. Nos entreprises européennes peuvent donc espérer occuper la place des Américains qui se retirent. Mais prendre le parti de la Chine contre les États-Unis n'est pas réaliste. L'ancienne ministre espagnole Ana Palacio écrit pourquoi dans un article publié cette semaine sur Project Syndicate. On a cru qu'en accédant, en s'engageant sur la voie des réformes, en étant admis à l'OMC, la Chine allait se rapprocher des standards occidentaux. Mais je cite Ana Palacio, c'était de la pensée magique. En fait, la Chine a transformé le système international bien davantage qu'elle n'a été changée par lui. Fin de citation. Son économie, en effet, reste largement administrée par un État parti. Elle ne pratique pas la réciprocité. Elle ne respecte pas vraiment la propriété intellectuelle. Ces marchés ne sont pas aussi ouverts que les autres, que les nôtres, et surtout, son système politique autoritaire est incompatible avec nos valeurs démocratiques et libérales. Conclusion d'Ana Palacio, Trump passera, nous avons intérêt à faire front avec les Américains. Et c'est aussi la position, sans doute, de Rasmussen, le secrétaire général de l'OTAN. De son côté, la Commission européenne a récemment défini la Chine, je cite, comme un rival systémique. Donc, la logique politique devrait dicter la stratégie commerciale, solidarité atlantique. Mais aider les États-Unis à contenir la montée en puissance de la Chine est presque aussi risqué, selon toujours Alicia Garcia Herrero. D'abord parce que Pékin s'est déjà constitué un lobby en Europe. Vous connaissez peut-être le groupe dit 16+1. Il est déjà largement dépendant des investissements et des prêts chinois. Des pays aux finances publiques mal en point, comme la Grèce, le Portugal ou l'Italie, sont entrés dans la sphère d'influence chinoise en échange de prêts importants. En outre, l'administration américaine actuelle ne nous considère pas comme des alliés. Trump a matraqué nos importations d'acier, d'aluminium et d'automobiles aux États-Unis. Il ne partage pas nos valeurs libérales. Troisième possibilité, vous me direz, adopter une position neutre et qui distante entre les deux superpuissances. Mais cela ne peut avoir de sens que si, de son côté, la Chine ouvre davantage ses marchés et se résigne à faire preuve d'un peu plus de réciprocité.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Demain, Brice, c'est sur Internet qu'on retrouve votre chronique et à la radio, c'est lundi. Dans un très court instant, Olivier Gesbert et La Grande Table.